Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Ah oui, vestiaire en cuisine, hein, du dimanche, comme ça, tranquille, entre nous. David, je rappelle, en plus, a fait paraître un livre avec ta compagne, Vanessa, en cuisine avec Vanessa et David Douillet, 87 du quotidien, aux éditions Flammarion. Un beau cadeau pour Noël, hein, d'ailleurs. C'est un beau livre, hein, franchement, avec plein de recettes que Sarah étudie depuis tout à l'heure. Et on s'est dit que c'était l'occasion. En plus, il fait froid et on a besoin de plats réconfortants, de parler bouffe et de bonne bouffe. L'occasion de parler de votre rapport de la nourriture pendant votre carrière, les GG à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, le sport de haut niveau et le plaisir de la bonne bouffe. Commencez en vrai. Vous êtes tous à peu près de la même génération, alors il n'y avait pas forcément de nutritionniste. David, on va commencer par toi, qui était dans une catégorie où tu pouvais te permettre ce que tu voulais, plus ou moins, en judo. La bonne bouffe, tu te limitais ou tu y allais franchement quand tu étais en activité?
Ah, moi, je calculais pas, j'y allais franchement. Et d'ailleurs, mon premier bilan nutritionnel, après mon premier titre mondial, c'était juste une catastrophe, puisque globalement, la diététicienne me dit, c'est simple, monsieur Douillet, vous mangez des gâteaux, des pommes de terre et de la viande rouge. Et puis, c'est tout. Voilà, pas de laitage, pas de fruits, pas de légumes, rien. Et c'est même invraisemblable que vous puissiez faire ce que vous faites, quoi. C'est pas possible. Alors, évidemment, faut pas faire ça, hein. Donc après, j'ai varié mon alimentation. Je digérais beaucoup mieux, mais j'étais pas plus en forme pour ça, hein, très honnêtement. Donc voilà, il faut se faire plaisir en fait. Il faut avoir une période où on fait gaffe, faut prendre le carburant dont on a besoin pour les muscles, le carburant et puis pour reconstruire les muscles. Ça c'est un peu technique, mais psychologiquement c'est aussi important de se faire plaisir en s'accordant des petits travers.
Bon là il y avait beaucoup de travers quand même. Il y avait beaucoup de travers. Non mais par exemple je sais pas.
Mais il y a un truc sur lequel il faut faire gaffe, c'est alors la nourriture c'est une chose, mais après c'est ce qui accompagne l'accord mets vin, tu vois, sur le vin et l'alcool, faut faire hyper attention pour le coup.
Mais sincèrement, c'est fantastique. On est sur une mission de sport, il nous dit il faut faire attention. Alors je pensais qu'il allait dire sur les équilibres protéines glucides. Non, accord mets vin.
Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Mets vin. Fromage, oui. Tu vois, ça c'est important aussi.
Oui, par exemple.
Philippe, tiens, la notion de s'accorder quelques plaisirs, je crois que tu suis David, non Philippe?
Oui, je suis David, mais bon, moi j'étais obligé de faire attention durant ma carrière.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'après j'ai pris beaucoup de kilos quand ma carrière a été finie.
Et lâché, quoi.
Non, c'est sûr que quand t'es David, lui, il était hors catégorie, donc lui, il n'avait pas ce problème de poids. Moi, je savais que si je passais au-dessus des 92 kilos, j'étais pas bien, j'étais moins explosif, j'étais moins rapide, donc j'étais obligé de faire attention. Par contre, sur la nourriture et le plaisir, j'avais un préparateur physique anglais, j'ai bossé 7 ans avec lui, il était pénible avec les joueurs, c'était invraisemblable. Par contre, la veille du match, il offrait une tarte avec un sorbet. Alors je lui dis, mais t'es pénible tout le temps. Et là, la veille, il me dit, oui, mais ça, c'est le plaisir, c'est l'anti-stress.
Ah oui.
Pour que les joueurs ne soient pas stressés le lendemain, on leur fait plaisir. Donc il était pénible durant toute la semaine. Et la veille du match, il dit, comme ça, ils vont bien dormir, etc. Et les mecs, ils couraient au dessert, tu vois, je veux dire. Ils disent, enfin du plaisir. Et donc, le plaisir est aussi important dans la compétition et même pour des sportifs de haut niveau.
Sarah?
Moi, j'avais pas vraiment de problème de poids puisque j'étais un petit gabarit, mais c'est vrai qu'on n'était pas accompagnés. Et moi, je mangeais absolument n'importe quoi. Mais n'importe quoi, mais surtout pendant les matchs, j'avais des stocks de sneakers dans mon sac, changement de côté.
Voilà. Je vais dire Mars et Twix, hein, pour avoir deux autres marques.
Exactement.
Attends, t'avais pas de banane dans ton sac?
Mais si, mais en fait, la banane, j'en avais marre. Quand il fait trop chaud en Australie, la banane, elle ressemble plus à rien. Non, t'as raison, elle ressemblait plus à rien, mais ça faisait plaisir. Et tu m'étonnes qu'après, j'avais des coups de pompe ou des coups de barre, parce qu'en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était intégré dans la performance. On intégrait la performance, on intégrait le poids, c'est-à-dire qu'on nous disait si on était en surpoids, en tout cas les choses, pour pouvoir On contrôlait le poids, mais on n'accompagnait pas le fait de savoir quel type d'alimentation on pouvait avoir. Et la difficulté, c'est que nous, on voyageait. Et donc, dans certains pays, bah, tu trouves pas ce que tu veux, en fait. Quand t'étais, il y a 20 ans dans les pays de l'Est, bah, pour être sûr que tu manges quelque chose, tu touchais pas la nourriture qui n'était pas cuite.
Parce donc, c'est quoi? Tu mangeais du riz blanc pendant une semaine?
Bah ouais, tu manges du riz blanc, tu manges une pizza, tu manges des pâtes, tu manges des patates, mais t'évitais de manger des crudités. Pour éviter de... Et quand tu pars en Asie du Sud-Est, autant dire que déjà tu te brossais les dents avec de l'eau, de l'eau filtrée, enfin de l'eau en bouteille. Donc en fait, il y avait ça, il y avait le fait de pas pouvoir manger en fonction de là où tu te trouvais, et ça faisait pas partie de la performance. Donc en fait, c'était tout et n'importe quoi.
Non mais ça
Ce qu'il faut dire, c'est que comme Philippe le disait tout à l'heure, 92 kilos. Moi, je devais. Alors, c'est une autre échelle. Si je dépassais 130 kilos, j'étais plus lent,
moins
rapide, moins puissant, etc., moins véloce. Donc, je faisais gaffe aussi. Hein, faut pas déconner. Mais ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que quand tu fais du sport à haute dose, tu peux t'accorder. Enfin, tu vois, tu grilles tout en fait. Tu peux vraiment te permettre des écarts parce que tout ce que tu manges et c'est pour la raison pour laquelle on grossit quand ça s'arrête, c'est que tu crames tout ce que tu manges. Donc il n'y a pas vraiment de problème de sélection, etc. Après c'est dans la qualité des aliments.
Si bien tu sûr, progresses, oui.
Évidemment ça va pas, etc., etc. Mais globalement, Sarah qui mange ses barres chocolatées, etc., etc. Elle peut se le permettre parce qu'elle fait 4, 5, 6 heures de tennis par jour et donc ça grille. Le problème c'est quand t'arrêtes. Voilà le coup.
Oui, mais dans la récupération.
Le problème, c'est quand tu arrêtes, tu vas avoir tes habitudes.
Tu manges toujours autant. Et là, tu
grilles
plus.
Voilà. Là, le problème, il est là, en fait.
Mais il y avait quand même une réflexion, et je regrette, mais parce que c'était le temps à ce moment-là. C'est même dans la récupération, en fait. Parce que tu as ce que tu brûles pendant l'effort, mais dans la récupération, nous, on jouait le lendemain. Tu pouvais jouer 3, 4 jours de suite, et puis tu joues dans des conditions qui ne sont pas les mêmes. Quand tu joues à 45 degrés en plein soleil en Australie, ou avec un taux d'humidité en Asie du Sud-Est.
Alors que c'est important, maintenant c'est primordial.
Exactement, ça fait vraiment partie de la récupération, oui. Au même titre que les
vins. Mais Philippe, t'es manager aujourd'hui, tu surveilles beaucoup les repas?
Ouais. Ah oui, on gère à peu près 50% de leur nourriture. Tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble et le repas de 13h ou 14h ensemble. Et durant la préparation, on a géré 70 ou 80%. Et pourtant, on est en deuxième division, bien sûr. Maintenant, les clubs professionnels gèrent la nutrition et les repas des joueurs.
Il y a des sorbets la veille de match? Il y a des sorbets la veille de match à Provence Rugby?
Quelquefois.
Mais quand tu vois que les footballeurs ont leur propre cuisinier aujourd'hui. Je pense que c'est pas juste un luxe.
Je trouve qu'on se prend trop la tête avec ça. On gère tout, on gère la minute de sommeil,
David, ce qui est important surtout, c'est que comme tu le dis sur des intersaisons, nous les joueurs, ils s'entraînent énormément, ils font une séance de muscu par jour, ouais. Ils font 25 bornes dans la semaine, et au contraire, c'est qu'il faut leur donner les éléments et tout ce qui est
les calories
pour qu'ils puissent et si jamais tu le fais pas, ils ne mangent pas assez. Donc souvent t'as un petit déjeuner, t'as une collation aussi. Okay. Donc ouais. tu vois c'est une gestion.
C'est pas une restriction,
mais il faut mettre du carburant si tu veux que
voilà.
si tu veux qu'ils tiennent
et hydrater. Et hydraté. Il y a un truc que je voulais dire, c'est que moi j'ai vu des copains, même à mon époque, hein, qui étaient des bouffeurs de riz complet absolus. Enfin, j'ai rien contre le riz complet, mais enfin, tu vois, c'était des bouffeurs de graines de riz complet, etc., etc. Et franchement, la prise de tête, quand t'es trop cadré, t'es trop cornaqué, t'es trop emprisonné dans un truc, tu craques. Tu génères de la frustration, et puis quand ça s'arrête, boum, ça part dans l'excès, quoi. Donc, ça doit être mesuré, équilibré, tu vois.
Le plaisir de la bonne bouffe, c'est le vestiaire du joueur.
David, tes potes qui sont, je sais pas combien, c'est moins 72 kilos, moins 68, ou les boxeurs et tout. Ouais. C'est terrible, c'est que des fois, ils sont 6, 7 kilos au-dessus de leur poids, et donc les 3, 4 4 semaines avant la compétition, ils sont obligés de faire des efforts surhumains et c'est très complexe.
Oui, oui, mais tu vois, quand ils étaient en intercoupe, ils montaient trop haut parce que justement, ils lâchaient trop la bride. Alors que s'ils avaient une bride un peu moins dure pendant toute la saison, ils auraient moins lâché et ils auraient eu moins d'écart de poids à résoudre. Mais vraiment, hein, c'est un vrai sujet de réflexion.
Moi, je me souviens, à Clermont-Ferrand, j'étais avec un boxeur, donc c'était l'ASM, c'était un club multisport, et donc à la fin des séances, on faisait des saunas, et lui, pour être le poids, il faisait le sauna avec nous, mais avec des kawés.
Mais oui.
Et il faisait en plus des abdominaux dans le sauna. On dit, putain, mais j'ai un combat dans 3 jours, et là, j'ai 2 kilos encore à perdre.
Alors que toi, tu rentrais avec un sorbet dans le sauna?
Non, on rentrait avec le sandwich dans le sauna.
Ça, après, il y a aussi une évolution. Sur les compléments qui se mettent dans la nourriture traditionnelle. On a beaucoup entendu parler du cas de Djokovic qui, au long de sa carrière, a changé son alimentation puisqu'il a découvert une intolérance relativement sévère au gluten. Et donc, il voyageait après avec son chef. C'est que quand on mangeait des pâtes, du riz, des pommes de terre ou du pain il y a 20 ans ou 25 ans, les quantités de gluten ou ce qui est digérable ont aussi évolué aujourd'hui. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment totalement à prendre en compte dans la performance, autant dans la récupération que la préparation. Donc c'est vrai qu'on a aussi découvert pour les sportifs des aliments qu'on disait, bah oui, évidemment qu'on mange des pâtes avant de faire une compétition. C'était le truc basique.
Ouais, ou la viande rouge, effectivement.
La viande rouge.
Les Argentins, ils s'envoient des gros barbecues. Bah, ils le font toujours, d'ailleurs.
Alors qu'aujourd'hui la composante des aliments, on fait aussi évoluer les grands principes qu'on utilisait il y a quelques années.
Simon ?
Non mais juste 2 secondes sur les compléments. Moi j'ai vu aussi des athlètes se mettre des pots de protéines dans la tête et etc. Franchement, ça, il y a tout dans les aliments. Moi la bouffe qui est transformée, la bouffe qui est faite avec tout un tas de c'est terrible. Mais vraiment, les produits frais, les bons produits se suffisent à eux-mêmes. Il y a pas besoin d'aller acheter des pots de ceci, des compléments de cela, etc. À partir du moment où tu manges des bons produits équilibrés, et je sais que c'est pas si simple, mais que tu cuisines un peu, mais sincèrement, t'es en meilleure santé que en complémentant avec des trucs chimiques et issus de sciences plutôt marketing que d'autre chose.
Simon, sur la bonne bouffe.
Moi, en tant qu'observateur, ce que j'ai noté, c'est l'importance, l'omniprésence justement de ces thématiques, alors qu'en effet, il y a 20, 30 ans, on n'en parlait pas, voire on en riait quand on avait des conseils. Et puis,
on est dans les gains marginaux aujourd'hui.
Sous l'impulsion de grands novateurs, comme moi, ça me rappelle Arsène Wenger, tu sais, qui était très décrié à son arrivée à Arsenal. Et puis, en fait, les mecs se disaient, c'est quoi ce pimpin? On le connaît pas, on n'a jamais entendu parler de lui. Et puis, c'est Ray Parlour qui disait, avant, on mangeait des frites avant les matchs, on a découvert le brocoli avec Wenger. Tu sais, il y a ce film avec Brad Pitt, là, le stratège, là, qui reprend le rôle de Billy Bean, là, le Moneyball des Raiders d'Oakland, je crois, qui a fait une saison historique. Je vous invite à aller voir ce truc. Et parmi les innovations, il avait vidé les machines des bars chocolatés.
Il aurait mis des
fruits secs et des amandes. Les mecs hallucinaient. Et ça a fait partie de la légende de cette histoire. Je crois l'équipe Sky aussi sur le Tour de France emmerdait tous les hôtels du parcours parce qu'il leur fallait des frigos adaptés. À chaque
c'est
coureur.
Devenu déterminant.
Guardiola, il faisait des menus différenciés selon le poste que tu occupais sur le terrain. Milieu de terrain, il mangeait pas la même chose que ses ailiers.
Djoko mange pas de gluten.
Ils amènent leur cuistot aussi en déplacement.
Et Sarah l'a rappelé. Djoko, je crois, il arrête le gluten en 2010. Il se découvre une intolérance et 2011, il fait une saison historique record. Donc faire attention à ces choses-là, à prouver l'efficacité. Moi, ce que je voulais demander, je sais qu'on manque un peu de temps aux copains, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, si j'avais mieux bouffé, si j'avais mieux fait attention, j'aurais été plus performant ?» Est-ce que finalement, à posteriori, ça laisse quelques petits regrets, quoi.
Mais les gains marginaux, en fait, les gains marginaux étaient un terme qu'on n'utilisait pas. Et que ce soit le sommeil ou la nourriture, ça rentrait pas dans le gain de la performance à l'époque. Donc oui. En plus, non, moi je suis un tout petit gabarit. Donc tout petit gabarit, quand tu joues une fille qui s'appelle Lindsay Davenport, qui fait 1m84 et qui te fait 2 fois son poids et qui fait 50 à l'ombre, Enfin, je veux dire, la dépense énergétique, si tu la compenses pas, j'avais peut-être une autonomie de 40 minutes que j'aurais pu peut-être repousser. Donc, il y a plein de si. En fait.
Philippe, tu ne regretteras rien ?
Non, et puis non, en plus, nous, on a quand même la culture du barbecue. Et...
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Bah,
on l'a surnommé le Gorée pour
non, mais la
culture de la troisième mi-temps.
Non, mais la culture du barbecue dans une équipe de rugby, même en pré-saison, les mecs, ils bossent, ils font attention. Et à la fin de semaine, s'ils ont bien bossé, ils bouffent un barbecue ensemble. Et ça veut aussi, il y a des liens. On est un sport collectif. Et on a besoin aussi de bien vivre ensemble et d'être bien ensemble. Donc, non, moi, non. Et je suis sûr que toi, David,
est-ce que tu aurais été triple champion olympique en bouffant des brocolis et des choux-fleurs,
petit gourmand?
Non, moi, j'aurais peut-être été triple champion olympique si j'avais pas fait de moto pour le coup. Voilà. Mais c'est autre chose. Mais mais bien sûr que non. Par contre, je dois être tout à fait honnête que quelquefois il m'est arrivé le midi de craquer sur un repas un peu plus lourd que d'habitude. Et je t'avoue que l'entraînement de la première demi-heure de l'entraînement de l'après-midi, waouh, c'était compliqué. Il fallait après quelques dégazages. Je vous épargne les détails. Et pour mes partenaires d'entraînement, il fallait une bonne demi-heure d'adaptation. Et puis après, ça se remet en route.
Et de ventilation.
Bon, c'est tout. C'est juste la seule contrainte. Voilà.
On comprend la recette du succès de David Douillet, en fait.
Il n'arrivait pas à trouver de Paris
partner. Comprends, j'en ai beaucoup mangé avant. Je suis arrivé, j'ai gazé tout le monde. J'ai intoxiqué tout le monde. On va refermer comme ça la porte du vestiaire. On ne s'attendait pas à la refermer comme ça. Mais du coup, comme ça, on va masquer les odeurs. En cuisine avec Vanessa, David Douillet, aux éditions Flammarion, 80 recettes au quotidien. Ça, c'est très sérieux. Et on continuera de parler de la nourriture parce que c'est un vaste sujet dans le sport de haut niveau. Et on a plein de thématiques à évoquer avec vous, évidemment, sur votre carrière.